L'homme aux deux pieds gauches par Valentin Williams. Le lundi 6 mars, arrivant chez mon ami H.B. Treadgold, à l'heure du petit déjeuner, je le trouvais tout occupé d'un crime qui défrayait la chronique des journaux, l'affaire du pavillon des Acacias. Un étranger d'un certain âge et d'antécédents plutôt mystérieux, le docteur Alexandre Rebal, avait loué sur les confins ouest de Londres une petite maison encadrée d'un parc et dénommée Pavillon des Acacias. Homme de science, cherchant la solitude, il menait là une vie tranquille, partagée entre ses études et la salle de lecture du British Museum. Sauf une jeune dactylo qui, dans les derniers temps, travaillait pour lui l'après-midi, il ne recevait que rarement un visiteur. Seule habitait avec lui une vieille femme de charge, Madame Kelly. Le 4 mars, un samedi, Madame Kelly avait obtenu de Rebal la permission d'aller passer la journée chez une nièce mariée à Margate. À son retour, vers minuit et demi, au pavillon des Acacias, elle vit de la lumière dans le cabinet de travail. Mais Rebal, ayant l'habitude de veiller tard, elle ne voulut pas le déranger et monta se coucher. Quand elle descendit, le lendemain matin, vers 7 heures, le cabinet était toujours éclairé. Rebal, assis à son bureau, la tête fracassée, ne donnait plus signe de vie. On ne découvrit aucune arme, mais les docteurs exprimèrent l'opinion qu'il avait été tué au moyen d'un instrument plus ou moins lourd, à bord tranchant. Ils situèrent l'heure du crime entre 9 heures du soir et minuit. La porte d'un petit coffre-fort logé dans le mur et dans lequel la victime gardait d'ordinaire des sommes relativement importantes en billets fut trouvée ouverte avec la clé dans la serrure, mais l'argent était parti. Rebal n'avait pas de compte en banque, son revenu consistait en rente d'État. Il fut prouvé qu'une semaine auparavant, il avait en personne présenté les coupons d'un semestre à la Banque d'Angleterre et touché une somme de 310 livres sterling en billets de 5 livres. Madame Kelly déposa que la veille du jour où elle s'était rendue à Margate, Rebal lui avait payé ses gages et les notes des fournisseurs avec 2 billets d'une liasse tirée du coffre. La découverte d'un paquet de titres au porteur demeuré intact dans un tiroir du bureau permettait d'attribuer le crime à un malfaiteur pressé d'agir. Je fus stupéfait lorsqu'en rentrant à mon étude, j'appris l'arrestation du jeune Christophe Kendrick que je connaissais depuis sa prime jeunesse et que l'on présumait coupable de l'assassinat. Roger Kendrick, son père, mon ancien condisciple de Cambridge, avait été tué au cours de la dernière guerre. Sa mère était morte peu après, en sorte que Christophe, quitte de son prénom familier, était resté de très bonne heure livré à lui-même. Élève brillant, il s'était spécialisé dans l'étude des langues modernes. La bouleversante nouvelle de son arrestation me fut apportée par une jeune fille d'une beauté singulière. « Vous ne me connaissez pas, Monsieur Duckett, » me dit-elle de but en blanc. « Je suis Tatiana O'Rourke, une amie de Kit Kendrick. » Je la regardais d'un œil appréciateur. Yeux noirs, cheveux de corbeau, teint d'ivoire, le drôle avait du goût. En dépit de votre nom irlandais, on pourrait vous croire russe, dis-je. Kit, linguiste remarquable, avait beaucoup d'amis étrangers. Maman était russe, papa irlandais. Je suis né à Petrograd. Mon père, qui faisait le commerce des bois, fut ruiné par la révolution communiste. Depuis, mes parents sont morts. Et voilà qu'à ma profonde consternation, Tatiana O'Rourke fondit en larmes. Ah, monsieur Duckett, j'ai tant de chagrin, sanglotait-elle. Qui t'est arrêté? Quelle sottise a-t-il pu commettre? Demandai-je. Elle poussa un soupir. Vous ne comprenez pas. On l'accuse d'un meurtre. Le meurtre du docteur Rebal. Il faisait des recherches pour le docteur au British Museum. La nuit dernière, la police est arrivée chez lui et... J'étais confondu. Kit, ce jeune homme d'un caractère si gai, d'une vie si limpide, accusé d'un tel crime. Sans doute, il manquait de ressources. Je le savais parfois très gêné. Je l'avais personnellement obligé à 2 ou 3 reprises. Mais voleur et assassin, lui. « Mais cette histoire est ridicule !» m'écriai-je. La jeune fille sanglotait toujours. « C'est ma faute. Kit m'avait procuré un emploi chez le docteur, qui avait besoin d'une secrétaire capable d'écrire sous sa dictée en langue russe. Le docteur se levant tard, il fut convenu que 3 jours par semaine, j'irai au pavillon des Acacias après l'heure du déjeuner et que nous nous mettrions immédiatement au travail. Je commençai il y a 15 ans. Au début, le docteur se comporta fort bien, mais ensuite... Bref, jeudi, lorsque Kit m'emmena dîner, je lui dis que je ne pouvais plus garder ma place. L'éternelle histoire du patron amoureux, j'imagine.
Oui, fit-elle, c'était horrible.
Bien qu'il fût hors de lui, Kit à ce moment ne dit pas grand-chose. Mais l'après-midi du lendemain vendredi, sans m'avoir prévenu d'un seul mot, il se rendit au pavillon des Acacias, où il vit Rebal. Ce qui se passa entre eux, je l'ignore. Mais Madame Kelly me dit qu'on entendait de la cuisine les éclats de leur voix et qu'en s'en allant, Kit jeta au docteur cette menace. « Essayez de la revoir et je viens vous rompre l'échine. » Elle soupira. « Vous connaissez la violence de son caractère. » « Depuis, continuai-je, Rebal vous a-t-il encore persécuté ?» Elle hocha la tête. Kit ne voulait pas me permettre de retourner au pavillon. Mais il vous reste à entendre le pire. 3 billets de 5 livres ont été enlevés du coffre-fort. Je sursautais, prévoyant ce qui allait suivre. Les pleurs de la jeune fille redoublèrent. La police a eu par la Banque d'Angleterre les numéros des billets manquants. Kit affirme que le vendredi, il déclara à Rebal en avoir assez de travailler pour lui. En conséquence, il demanda à être payé et Rebal lui remit ses 3 billets. Mais naturellement, la police refuse de le croire. Que faisait-il la nuit du meurtre?
Il n'a pas d'alibi, si c'est là le sens de votre question. Vous êtes son seul ami, monsieur Duckett. Vous lui porterez secours, n'est-ce pas?
Il ne m'en fallut pas plus pour mobiliser HB. J'emmenai Tatiana rue Saville. Threadgold nous apparut à l'entrée d'un des salons d'essayage. Le centimètre en travers des épaules, il s'occupait d'un évêque. Il vint immédiatement à nous et tout de suite, il mit la petite demoiselle à son aise. « Remettez-vous-en à nous, » lui dit-il, après l'avoir entendu. « S'il est possible de prêter assistance à votre ami, George Duckett et moi la lui prêterons. » Après le départ de Miss O'Rourke, il attacha sur moi des yeux interrogateurs. Un jeune homme trop ardent tuera pour venger une offense, surtout lorsqu'une femme est en cause. Mais volera-t-il? Jamais de la vie. Nous sommes d'accord. Votre protégé, à ce que disent les journaux, comparaît ce matin devant le juge du lieu. Je vous emmène dans ma voiture. » Le jeune Kendrick, que nous vîmes quelques minutes avant sa comparution, était dans un état de haute tension nerveuse et son attitude sentait le défi. « Je ne l'ai pas tué, George, et j'ignore qui l'a tué, » me dit-il. « Je n'ai pas non plus volé les billets trouvés en ma possession. Je lui ai déclaré que je renonçais à travailler pour lui et il m'a payé mon dû, 3 semaines à 1 livre par semaine. » Nous l'interrogeâmes sur Eval, mais il n'avait sur lui que des renseignements peu précis. L'audience ne traîna pas. L'inspecteur Rogers, homme vif et taciturne, raconta les circonstances de l'arrestation et requit le renvoi à 8 jours. Il se montra réservé, mais sans hostilité, lorsqu'ensuite nous lui parlâmes. L'inspecteur-chef Manderton lui avait téléphoné. Il se ferait donc un plaisir de nous mener sur le lieu du crime. Et si nous désirions voir le corps au dépôt mortuaire, l'enquête avait précédé le transport. Nous commençâmes par nous rendre au dépôt. Rebal était de courte stature et corpulent, avec un nez aplati et des lèvres charnues. Il avait reçu 5 coups, 1 par devant, qui lui avait balafré la figure, 4 par derrière, au sommet du crâne. On avait, me dit Hodgetts, relevé des traces de sang dans le hall. C'est de là, évidemment, qu'était partie l'attaque. Rien n'indiquait qu'on eût forcé l'entrée de la maison. D'après moi, opina l'inspecteur, Rebal, assailli sur le champ par Kendrick, se dégagea d'un bond. Kendrick l'acheva dans le cabinet de travail, alors que courbé sur son bureau, le malheureux cherchait de ses bras à se garantir la tête. L'une des mains est très abîmée. Hodgetts nous montra la main droite. Threadgold s'abstint de tout commentaire, et nous gagnâmes le pavillon des Acacias. Bien que le mur de clôture très élevé bordât partiellement la route du Nord où la circulation de jour et de nuit est considérable, le lieu me parut idéalement choisi pour un meurtre. Pas de proches voisins, une entrée de côté desservie par une venelle, une avenue de peupliers masquant la vue de la villa, petite et modeste, avec son étage unique et inaccessible au bruit du dehors. Le cabinet de travail était une pièce mal tenue et poussiéreuse, assombrie par d'épais rideaux encombrés de livres. Il s'étageait jusqu'au plafond. Il s'empilait sur le plancher et sur les sièges. Immobile au centre de la pièce, Threadgold la parcourait des yeux. Il prit, au hasard, 1 livre ou 2, puis les reposa. Observant sur une table, contre un des murs, une théière de cuivre flanquée de verre, il dit à Hodgetts « Russe, notre homme, n'est-ce pas ?»« Bulgare, » répliqua l'autre. Rebal n'était pas son vrai nom. Son passeport et le registre des étrangers de Wall Street lui donnent le nom de Dimitriev. Je vis se froncer les sourcils de HB. « À ses traits, » dit-il, « j'aurais cru reconnaître un Russe, probablement matiné de Tartare. »
Ses livres, en tout cas, sont russes et ce samovar. Il s'interrompit. Auriez-vous de lui une photographie à me prêter ?
Il gardait dans les tiroirs de son bureau quelques photos de passeport. Je ne vois pas d'inconvénient à vous en confier une.
Étirant une photo de son portefeuille, l'inspecteur le tendit à mon ami. Treadgold examina, d'un air sombre, cette face sensuelle, résolue, nonobstant des joues pendantes et un double menton, ses petits yeux en boule.
Hodgett s'était dirigé vers la fenêtre.
« Voici par où Kendrick s'est sauvé, » dit-il. « Regardez, les marques de ses pieds sont visibles. » Sur la peinture blanche de l'appui se voyaient effectivement des éraflures toutes fraîches. « Peut-on sortir ?» me demanda Treadgold. «
Pourquoi pas ? Nous n'avons plus rien à faire ici. »
La fenêtre s'élevait d'un mètre à peine au-dessus du sol. Nous fûmes d'un saut dans le parc. Entre des massifs de lauriers et de rhododendrons, une allée descendait en serpentant vers le mur de clôture.
« De l'asphalte !» dit Treadgold en tapant du pied.
« Ce n'est pas cela, inspecteur, qui nous apprendra quelque chose. »
« Attendez donc, » lui répliqua l'inspecteur.
Comme nous approchions du mur, que défendait contre l'escalade, non seulement sa hauteur, mais les débris de verre qui en hérissaient la crête, il devint évident pour nous, au grondement continu des autos dont il nous dérobait le passage, que nous étions à l'endroit du parc bordant la grande route. Un bouquet d'arbustes courait sur le mur. Il présentait une brèche où l'on avait disposé deux courtes planches.
« Le meurtrier a laissé là deux empreintes, » fit Hodgetts en montrant les planches, puis levant la main à hauteur de la ceinture.
« Ces écorchures sur la brique du mur, c'est lui qui les a faites. C'est par là qu'il s'est hissé. »
L'inspecteur souleva les planches.
« Il a plu abondamment le soir du meurtre.
Les bords des empreintes sont presque effacés. Pourtant,
deux empreintes se distinguaient encore l'une près de l'autre. Les mains sur les cuisses, Treadgold se pencha pour les examiner.
« Empreinte d'un très grand pied. » dit-il pensivement.
« Kendrick, » le rappela l'inspecteur, « mesure 1m85. » Mon ami fit un signe d'assentiment.
L'homme dont voici les traces ne prenait pas son élan pour bondir. Voyez plutôt comme il appuyait sur la région des gros orteils. Il a fait ici une pause.
« Je comprends ça. » La route est des plus passantes à toute heure. Il attendait qu'il se fît un petit répit dans la circulation.
« Bon Dieu !»
s'écria soudain Treadgold. « Voilà qui est bizarre. »
Il tomba sur les genoux.
« Avez-vous bien examiné ces empreintes, inspecteur ? » demanda-t-il à Hodgetts, cependant qu'il les scrutait de tout près.
« Je les ai mesurées, si c'est cela que vous voulez savoir. Elles correspondent approximativement aux dimensions des pieds de Kendrick. J'y appliquais une paire de ses chaussures. Malheureusement, les contours sont trop flous. »
Accroupi sur les talons, Treadgold se grattait la tête.
« Vraiment ? » proclama-t-il. « C'est on ne peut plus extraordinaire.
Quoi ?
Cela paraît fou, mais j'ai le sentiment que ces empreintes sont celles de deux pieds gauches. »
Hodgetts pouffa de rire. « Voyons, monsieur, finissons-en. »
Treadgold se leva.
« La question des empreintes m'a toujours intéressé, » fit-il en époustant ses genoux.
« Je l'ai particulièrement étudié dans les admirables instituts de médecine légale créés à Lyon et à Vienne. Je vous le répète, ces empreintes sont celles de deux pieds gauches. »
L'inspecteur se tourna vers moi et du bout de l'index se tapa le front en m'adressant un clin d'œil ironique.
Gestes et clins d'œil furent perdus pour Treadgold. Ils étaient jetés au milieu des lauriers. Des craquements accompagnaient sa marche. Ils devinrent bientôt de plus en plus faibles. Après un moment assez long, Hodgetts finit par se lasser d'attendre. Soudain, comme il me déclarait,
« Je ne puis passer ici tout l'après-midi. »
Un cri l'arrêta. Treadgold venait de reparaître. Il avait la face cramoisie et tenait entre ses doigts, dans les plis de son mouchoir, une baïonnette à lame effilée et triangulaire. Des parcelles de boue y adhéraient. Elle portait, à hauteur de la poignée, une tache rougeâtre.
« Ah, par exemple !»
s'écria l'inspecteur en désignant la tache.
« C'est l'arme, l'arme même du crime. Comment l'avez-vous trouvée ?»«
En la cherchant, » répondit Treadgold sans sourciller.
« Bien travaillé, » dit Hodgetts.
Voilà de quoi nouer la corde au cou de notre jeune ami. Les murs de zoologie sont tapissés d'objets semblables.
Je frémis, me souvenant qu'en effet Kendrick gardait tous les souvenirs de guerre de son père.
C'est une baïonnette française, à lame très longue, poursuivit le détective. Je ne saurais mieux faire que de la porter à qui de droit.
Nous le quittâmes là-dessus et Treadgold, après avoir téléphoné de la première cabine publique, me ramena à Londres.
Miss O'Rourke attendait Treadgold chez lui.
Elle resta bouche bée, quand avec tous les ménagements possibles, il lui apprit la découverte de la baïonnette.
« Je connaissais bien cette arme, » balbutia-t-elle. « Elle traînait constamment dans le salon. »
Elle avait naguère un fourreau, mais il s'est perdu. Et la jeune fille se laissa tomber sur le divan, la tête dans les mains. Quelle situation pour mon ami et pour moi. Treadgold ne prononça pas un mot, mais il me jeta un regard significatif. Sur ces entrefaites, le téléphone sonna. Je pris la communication, elle venait de Hodgetts. « Je vous téléphone de chez Kendrick. Votre ami Treadgold sera peut-être heureux de savoir que la logeuse a reconnu la baïonnette. » Je fis part de cette information à mon ami qui prit alors le récepteur. « Comment l'a-t-elle reconnue ? Il y a de ces baïonnettes françaises par milliers en Angleterre. » J'ignore ce que répondit Hodgetts, mais mon ami poursuivit. « Même si la baïonnette de Kendrick a disparu, cela n'implique pas forcément la culpabilité du jeune homme. Qu'en dit-il lui-même ? » Et après un grommellement, « Je ne serais pas fâché de le savoir. » Puis il raccrocha. D'un air maussade, il se mit à bourrer sa pipe. « Parlez-moi de Réval, » lança-t-il brusquement à la jeune fille. « Était-il bulgare ou russe ?»« Russe, » répondit-elle d'une voix indifférente. Le timbre de l'entrée résonna. Il eut un silence, puis le domestique de Treadgold annonça « Monsieur Léandre Léonard !» Et nous vîmes entrer d'un pas vif un petit homme sec tiré à quatre épingles. « Georges, » me dit mon ami, « je vous présente Monsieur Léandre Léonard, correspondant à Moscou du London Bulletin, actuellement en congé à Londres, et l'un de mes clients fidèles. Quoi de neuf, Monsieur Léonard ?» Monsieur Léonard tripotait ses lunettes. « J'ai causé avec un confrère de Moscou qui se trouve aujourd'hui à Londres et qui m'a quelques obligations. L'ambassade des soviets est, paraît-il, muette comme la tombe au sujet de l'affaire et il me conseille de ne tenter de ce côté aucune démarche. Mais il me laisse entendre que ce Réval est en réalité un certain Vassili Lubov, compromis naguère dans le complot de Trotsky contre Staline. Il eût été jugé et exécuté comme Zinoviev s'il n'avait pu fuir à l'étranger. » Ayant dit, M. Léonard se recoiffa et sortit prestement comme il était venu. « Je me demande s'il a raison, » fit Treadgold. Il s'assit, rêveur, à son bureau, attira un bloc de papier et tapotant du bout de son porte-crayon contre ses dents, il réfléchit, écrivit quelques lignes, détacha la feuille et l'attendait à Miss O'Rourke. « Pourriez-vous, me dit-il, me traduire ceci en russe ?» Mais très trahir sans doute ma curiosité car il ajouta « Vous pouvez lire, je lus. » Pitié pour les invalides. Un vétéran des armées russes qui a eu le malheur de perdre une jambe à la guerre serait infiniment désireux de venir en aide à ses compatriotes affligés de la même infortune. Tout homme de nationalité russe qu'un accident, quel qu'il soit, a privé d'une jambe, peut s'adresser tous les jours entre 6h et 9h du soir au 99B de Bury Street, Saint James, Londres. La jeune fille lut à son tour avec étonnement cette étrange annonce. « À votre disposition, » dit-elle. Il lui fit une place libre sur le bureau. Quand elle eut fini d'écrire, il la congédia. Puis, le papier en main, il le regarda un bon moment, silencieux, tirant sur sa pipe. Je brûlais de lui demander ce que signifiait une annonce si étrange, ou qui du moins me semblait telle. J'en fus empêché par l'arrivée de Hodgetts, qui, repoussant le domestique, marcha droit sur nous. « Eh bien, » dit-il, « Kendrick a bu la baïonnette, il admet qu'elle ressemble de tout point à celle qu'il avait chez lui. La reconnaît-il comme étant la sienne ?» L'inspecteur éclata de rire. « Vous ne le pensez pas. Il proteste qu'il n'a pas vu sa baïonnette depuis des jours et qu'on la lui aura volée. Balançoire, j'ai voulu quand même vous prévenir. » L'inspecteur sortira et Treadgold consulta sa montre. « J'ai l'intention, me dit-il, de prendre ce soir l'avion pour Paris. Comme toutes les baïonnettes, je ne vous la prends pas, celle-ci a un numéro matricule. J'essaierai de savoir d'où elle sort et par quelle voie elle est venue jusqu'ici. » Treadgold me tendit le papier que lui avait laissé Tatiana. « Voulez-vous porter ceci demain au bureau du Times et demander que jusqu'à nouvel ordre, on insère tous les jours ces quelques lignes de russe en tête de la colonne des annonces ?»« Si vous voulez. Mais votre idée, HB ?» Mon ami eut un sourire énigmatique. « Ce type aux deux pieds gauches m'intéresse beaucoup. » Je remplis le lendemain la mission dont Treadgold m'avait chargé. Une affaire me retint ce jour-là au tribunal jusqu'après le déjeuner. Quand je rentrai à mon étude, Jobling, mon clerc, me remit un télégramme venu de Paris dans la matinée. Treadgold me priait d'être chez lui le soir à 6h. Je fus informé par Jobling que Tatiana O'Rourke avait fait des efforts répétés pour m'atteindre. Elle ne tarda pas du reste à me téléphoner une fois de plus. Elle aussi avait reçu de Treadgold un télégramme lui donnant rendez-vous à Bury Street pour 6h. Un client trop verbeux fut cause que j'arrivais à Bury Street avec quelques minutes de retard. Je trouvais le vestibule et l'escalier débordant de stropia fort excités, dont les uns s'appuyaient sur des béquilles, les autres sur des cannes à bout caoutchoutées. Ils étaient assurément une vingtaine. Je n'imaginais pas qu'il y eût à Londres tant de Russes unijambistes. Déjà les premiers clopinaient dans l'appartement. Assis au bureau tandis que Treadgold se tenait debout derrière elle, Tatiana catéchisait chaque solliciteur et lui remettait sur les instructions de mon ami un billet de banque. J'attirai à part HB. Eh bien, quel résultat, votre voyage à Paris? Renseignement complet sur la baïonnette. Non. Elle fait partie d'une série fabriquée en 1917 pour la Légion russe, composée principalement d'anciens officiers de l'armée impériale qui, après l'écroulement du front en Russie, avaient pris du service en France. Elle fut, d'après les registres, comprise dans l'équipement d'un certain Boris Valianko, colonel d'artillerie. À ce moment, Tatiana O'Rourke appela de sa place. « Monsieur Treadgold, s'il vous plaît !» Elle avait devant elle une espèce de miséreuse soutenue par des béquilles. Cet homme dit connaître le colonel Valianko. « Il ne parle qu'un très mauvais anglais, » poursuivit Tatiana. L'invalide parla. « Le colonel, excellent homme. Très bon pour les pauvres Russes. Vous, peut-être, me donnez de l'argent pour lui, lui avoir perdu comme moi une jambe. » Treadgold se raidit. « Une jambe, lui aussi, laquelle ?» La jeune fille traduisait la demande. « La droite, » dit-elle, et les yeux de Treadgold flamboyèrent. Une voix s'éleva tout d'un coup. « Que se passe-t-il ici ?» C'était la voix d'Hotchett. Il s'avançait. « C'est pour la baïonnette de Kendrick. Nous l'avons retrouvée à son domicile. » Treadgold partit d'un grand rire. « Vrai ?»« Alors ne bougez pas, inspecteur. Nous allons peut-être savoir d'où venait l'autre baïonnette. » Et s'adressant à Tatiana, « Votre homme sait-il où perche Valianko ?» Elle transmit la question. « Il a son imprimerie dans Fond Street, à Islington, et il habite au-dessus, » annonça-t-elle. Treadgold lui fourra dans la main l'alias de billets. « Distribuez ça au reste de ces pauvres gens et dites à celui-là de nous suivre. » Une auto de la police avait amené Hodgetts. Elle l'attendait dans la rue. Nous nous y entassâmes. Au dernier moment, Tatiana nous rejoignit tout essoufflée. L'inspecteur protesta, mais « Vous aurez besoin d'un interprète » cria-t-elle. L'imprimerie, installée dans une pauvre boutique d'une pauvre rue, était noire quand nous y arrivâmes. Mais une lumière brillait au-dessus de la porte latérale. Et sur un coup très fort frappé par Hodgetts, des pas pesants et inégaux résonnèrent à l'intérieur. La porte nous fut ouverte par un homme entre deux âges, aux cheveux gris, à la moustache hérissée. Il portait un mauvais gilet de laine sans manches, et sa jambe droite, réduite à un moignon, s'achevait en jambe de bois. « Le colonel Valianko ?» dit Hodgetts. « Moi-même, » répondit le colonel, fièrement, sans aucune pointe d'accent étranger. L'inspecteur présenta sa carte. Valianko inclina la tête et, sur son invitation, nous passâmes dans un petit bureau. J'observai qu'il regardait durement Tatiana. « Je vous ai vu au restaurant Medved, » lui dit-il. « Si je ne me trompe, vous étiez la secrétaire d'Alexandre Rebal ?» Mais l'inspecteur ne laissa pas à la jeune fille le temps de répondre. « Pourquoi l'avez-vous tué ?» Treadwell s'interposa. « Il ne l'a pas tué. Mais j'imagine qu'il pourrait nous désigner l'auteur du meurtre. » Et se penchant vers le colonel. « Où est l'individu qui portait deux de vos souliers la nuit dernière ?» Valianko, sans rien dire, braqua sur son ami des yeux naturellement très doux, puis avec un mouvement de tête vers le plafond. « Là-haut, » fit-il, et il ajouta d'une voix tristée. « Il se meurt. » L'inspecteur allait se précipiter dans l'escalier. Le colonel le retint. « Écoutez-moi d'abord. » L'homme assassiné, le prétendu Rebal, était en réalité l'infâme Lubov, qui, devenu chef de la police secrète à Odessa après la défaite de Denikin, mit à mort des milliers d'innocents. Il y a quelques mois, je me fis, dans mon journal, l'écho d'une rumeur venue de Riga, et suivant laquelle Lubov, ayant fui de cette ville pour échapper à une arrestation imminente, s'était réfugié à Londres. Un jour du mois dernier, je reçus la visite d'un malheureux en guenilles. Il avait des papiers en règle au nom de Paul Mikhailov, ancien capitaine de la garde impériale, régiment de Préobrajansky. Il me raconta que, travaillant au dock de Salonique, il avait eu en main, par hasard, le numéro où je parlais de Lubov, et il m'exprima le désir de connaître son adresse. Je lui répondis que je n'étais pas en mesure de le satisfaire, que j'avais seulement fait état d'un bruit dont je n'avais pu avoir la confirmation, et mon visiteur s'en alla. Quand l'avez-vous revu depuis ? Demanda Treadgold.
La semaine dernière.
Il était totalement dépourvu de ressources, et je sais que, depuis notre première rencontre, il menait une vie misérable dans l'East End. Il toussait affreusement, et mourait presque de faim. Je lui donnais un lit dans la maison. Le lendemain, je le menais dans un restaurant russe que je fréquente pour qu'il y fît un bon dîner. Comme nous passions devant le British Museum, il s'arrêta subitement et m'indiqua un homme qui avait tout l'air d'un russe et causait avec une jeune fille. Il me demanda si je savais qui c'était. La jeune fille était Mademoiselle Kouassi. Je l'avais souvent vue au Medved et savais par le propriétaire de l'établissement qu'elle tenait l'emploi de secrétaire auprès d'un nommé Rebal. C'est ce que je déclarais à Mikhailov. Sur quoi il me dit que l'homme était probablement le patron de la jeune fille.
Vous dites aussi que Rebal était Lubov ?
Pas cette fois.
Mais 3 jours plus tard, ou, pour préciser, samedi dernier, jour du meurtre, il ne rentra pas de la nuit.
Et je constatais la disparition de ma baïonnette, seul souvenir de mon service dans la Légion russe sur le front français, où j'ai perdu ma jambe. Mikhailov ne revint qu'à la pointe du jour, épuisé, à demi délirant. Il m'apprit qu'il avait tué Lubov, le monstre d'Odessa, qui, des années auparavant, avait envoyé à la mort sa mère et sa sœur.
Comment se fait-il que Mikhailov porte à vos souliers ? Demanda HB.
Le colonel rougit.
Messieurs, je suis très pauvre.
La seconde fois que Mikhailov vint me voir, ses pieds saignaient dans des lambeaux de sandales. J'avais donné un autre de mes camarades, amputé de la jambe gauche après la bataille des lacs de Mazurie, tous les souliers droits qui me restaient. Je ne pus offrir à Mikhailov que 2 souliers gauches provenant de mon équipement d'officier.
Par bonheur, il est plus petit que moi et il est entré à l'aise.
Un dernier mot avant que vous montiez, ajouta le colonel à l'adresse de Hodgetts. Et du tiroir de sa table, il tira un paquet de billets de banque qu'il mit dans la main de l'inspecteur.
L'argent pris dans le coffre, expliqua-t-il.
Dans une chambre du 2e étage, à peu près nue, un bec de gaz papillon projetait sa lumière tremblotante sur un homme à la mine hagarde, à la barbe inculte, qui s'agitait dans un lit, en proie à une toux incessante.
« Camarade, lui dit doucement Vayanko, ces messieurs sont de la police. »
L'homme se retourna et ses yeux sombres nous cherchèrent tour à tour du fond des orbites.
« C'est bien, répondit-il d'une voix creuse. Je vous dirai la vérité car je vais mourir.
C'est moi qui ai tué Vassili Lubov, le soi-disant Alexandre Rebal. Ma sœur unique, Nadia, étant tombée entre ses mains, alors qu'il était chef du GPU à Odessa, ma mère, quand elle apprit le sort de sa fille, se donna la mort. Une quinte de toux lui coupa la parole. Il but une cuillerée de potion que lui administra Valianko, puis il reprit. Je servais alors sous Denikin. C'est seulement après la défaite de nos armes que, revenu à Odessa sous un déguisement, j'appris ce qui était advenu de ma mère et de ma sœur. Je courus après Lubov durant des semaines, décidé à en faire justice.
Une nouvelle quinte lui déchira la poitrine. Quand il eut recouvré le souffle, il continua.
Je lus un jour, dans le journal de mon camarade Valianko, que l'on croyait Lubov réfugié à Londres. Je trouvais dans la quinzaine à m'enrôler comme chauffeur à bord d'un vapeur grec chargé de fruits, et je fis route pour Londres. Le colonel Valianko ignorait l'adresse de Lubov, et durant des semaines, je battis le pavé à sa recherche, jusqu'au moment où mes ressources épuisées, je dus demander asile à mon camarade. C'est 1 ou 2 jours de là que le hasard me fait rencontrer Lubov.
J'ai déjà raconté à ces messieurs, interposa le colonel, les circonstances de cette rencontre.
Mikhailov poursuivit.
J'étais résolu à ne pas le laisser échapper. Ne voulant pas occasionner d'ennui à mon bienfaiteur, je ne lui parlais pas de mes projets, mais je me procurais par l'annuaire du téléphone l'adresse de Rebal. Et durant 3 jours, cachant sous mon veston la seule arme dont je disposais, la baïonnette de mon camarade, je rôdais autour de son domicile, guettant une occasion de le trouver seul, d'agir sans encombre. Le samedi matin, il sortit de chez lui après que sa gouvernante eut quitté la maison en taxi. La voie devenait pénible. Mikhailov n'en continua pas moins. J'attendis toute la journée. La gouvernante ne revenant pas, je m'affermissais d'heure en heure dans mon dessein. Lubov revint au crépuscule. Je le regardais entrer dans la maison et quand la nuit fut tout à fait tombée, je sonnai hardiment à la porte. Comme je l'avais prévu, il va ouvrir lui-même. À sa vue, je perdis le contrôle de moi-même. « Avez-vous oublié Nadia Mikhailov ?» lui criai-je, et je le frappai au visage avec la baïonnette. La voix traîna, les yeux brûlants s'éteignirent. « Ainsi, dis-je à Treadgold en le quittant dans la nuit devant sa porte, ce que vous cherchez, c'était un homme n'ayant qu'une jambe ?» Il sourit. « Depuis, tout au moins, l'instant où je découvris que ces empreintes venaient de deux pieds gauches. Comme vous me l'avez justement rappelé, il n'existe pas un exemple de deux pieds gauches chez un être humain. Je me demandais quelle sorte d'individu peut posséder deux souliers d'un même pied. Apparemment, n'est-ce pas, un homme qui n'a qu'une jambe ? Mais comment, ayant suivi la baïonnette à la trace jusqu'à Valianco, n'avez-vous pas présumé que Valianco fut l'assassin ? Mon cher Georges, oubliez-vous le mur haut de 5 mètres, et couronné d'éclats de verre qui entoure le parc du pavillon des Acacias ? Le voyez-vous escaladé par un invalide à jambes de bois ? Ainsi s'achève l'homme aux deux pieds gauches par Valentin Williams.